Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et de la finance. Intéressant, ces rapports cette semaine qui ont été publiés par le Fonds monétaire international appelant à la mise en garde envers l'essor rapide du crédit privé. C'est un secteur qui comprend des prêts à des entreprises qui sont de taille intermédiaire, donc qui sont ni grosses ni petites, qui veulent échapper aux banques commerciales. Et en fait, il s'avère que l'essor grandissant du crédit privé fait peser des risques sur les conditions de financement des entreprises de taille moyenne. Ces conditions de financement sont jugées souvent inadéquates par le Fonds monétaire international. Et toujours le FMI parle d'une augmentation des cyber-risques qui aujourd'hui sont une menace croissante de la macro-finance mondiale. Les grandes entreprises, particulièrement dans le secteur financier, doivent renforcer leurs mesures de cybersécurité, dit le FMI, pour se protéger contre les attaques potentielles. On se tourne vers l'économie chinoise qui est toujours très impactée par la crise dans le secteur immobilier. Les grandes entreprises de la construction, les promoteurs immobiliers sont confrontés à une baisse de la demande intérieure et des difficultés financières croissantes. C'est vrai que les affaires ont été déclinantes dans plusieurs grandes régions de cet immense marché intérieur qu'est la Chine, et ceci est tout à fait préoccupant. Un mot sur la croissance économique européenne. Elle reste somme toute assez faible, influencée par des politiques monétaires restrictives et dont les effets sont réels. Ça nous permet globalement en Europe de maintenir un taux d'inflation qui ne soit pas trop élevé, mais cela reste encore insuffisant pour relancer, pour doper, pour donner des points de croissance à cette économie européenne. On revient au Maroc avec, en ce mois de juillet, beaucoup de questions qui se posent parmi les jeunes diplômés, ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat, qui se demandent, c'est la période, le mois de juillet, on se demande, mais où vais-je aller? Est-ce que je vais rester au Maroc pour faire mes études? Est-ce que je vais partir à l'étranger? Si oui, dans quelles conditions? On sait qu'aujourd'hui, le secteur de l'éducation universitaire ou autre, les grandes écoles, cela coûte excessivement cher. Comment faire? Quels sont les bons choix? Comment aujourd'hui gérer cette séquence tout à fait importante dans la vie d'un étudiant, il ou elle, qui veut accéder à l'enseignement universitaire? Nous allons en parler avec Oudéi Fahamzian, qui est un professeur d'université qui a dirigé l'université de Tanger, donc qui connaît parfaitement bien ce secteur. D'abord, Oudéi Fahamzian, merci encore une fois d'être avec nous dans Economia. C'est vrai que c'est vraiment une séquence qui est tout à fait importante. Alors, ça engage la vie des jeunes étudiants, mais là, il y a des vrais choix économiques qui se posent.
Effectivement, les études de l'inscription à l'université est devenue un peu plus complexe et aussi plus coûteuse en raison de plusieurs facteurs, le facteur économique, les facteurs institutionnels, les facteurs d'accès géographique, d'évolution du marché du travail. Donc voilà. Il faut dire aussi que jadis, le nombre d'étudiants qui avaient accès à l'université était très limité, donc on avait le choix de faire telle ou telle filière économique. En plus, le nombre de filières n'était pas très important. Maintenant, la multiplication des filières, de la spécialisation, le nombre important d'écoles...
C'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver.
Absolument. Et puis, il y a l'accroissement démographique qui fait que maintenant, on a un nombre important qui veut accéder à l'université. Et puis, les places dans certaines écoles ou filières ou instituts qui sont très réputés sont limitées. Et du coup, il y a une certaine... les procédures d'admission, d'inscription peuvent être compliquées. La compétition, l'augmentation du nombre de candidats pour un nombre limité de places fait que les universités peuvent être très sélectives dans leurs critères d'admission. Tout cela rend le processus d'inscription un peu plus stressant et, disons, incertain pour les étudiants.
Ce qui est quand même assez difficile, c'est vrai que, alors après, c'est un réflexe qui vaut ce qui vaut, mais on peut avoir la tentation de se dire, plus c'est cher, mieux c'est. Alors les parents ont un peu tendance à parfois se ruiner, même à prendre des crédits pour payer les études des enfants qui deviennent des adultes. Est-ce qu'on peut raisonner comme ça? Plus c'est cher, mieux c'est? Ou est-ce que l'orientation ne répond pas finalement à d'autres critères?
Je crois que c'est vrai, on peut être tenté de dire que qu'il y ait une corrélation, entre le diplôme et le et le coût. Mais c'est pas évident. Hein. La valeur d'un diplôme ne dépend pas que de son coût, que des frais de scolarité, mais dépend aussi de beaucoup de choses. Je pense notamment à la qualité des professeurs,
bien sûr.
À la recherche scientifique qui est développée dans telle ou telle université. Voilà, il n'y a pas que le coût. C'est un facteur qui permet, lorsque les moyens dont dispose l'université sont importants à travers les coûts ou les frais de scolarité qui sont exigés aux étudiants, on peut avoir accès à des ressources documentaires importantes, à des stages, mais il n'y a pas que ça qui intervient et qui détermine la valeur d'un diplôme.
Excusez-moi de vous couper, Oudaïfa, mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, dans les écoles qui sont les plus chères, on en vient à nous dire aussi que lorsque vous rentrez dans une université en y mettant le prix, vous allez aussi acquérir le renom du diplôme et puis les associations des anciens, des élèves qui font jouer le réseau aussi. C'est vrai que là, on peut même y trouver peut-être même une certaine injustice parce que ce sont ceux qui sont les plus fortunés qui peuvent bénéficier de ce type de package, va-t-on dire, qui est proposé par un diplôme.
C'est très relatif. Je viens de dire que la réputation d'un diplôme ou d'une école n'est pas liée ou ne détermine pas les frais de scolarité.
D'accord.
Et vice versa. Maintenant, pourquoi ? Parce que on peut avoir une école dans un lieu géographique assez correct, mais qui dispose, par exemple, de chercheurs de très bonne qualité, de réseautage très important. Ouais. Le réseautage n'est pas d'un environnement économique qui permet aux étudiants d'avoir beaucoup d'universités, d'institutions pour faire des stages. Donc tout cela peut bénéficier à un étudiant sans pour autant que les frais de scolarité soient la raison pour laquelle cette école a une bonne réputation. Maintenant, ça peut aider, indéniablement. Ça peut aider, indéniablement. Ça peut aider. Et donc, je crois que c'est plusieurs facteurs sont à l'origine de la valorisation d'un diplôme par rapport à un autre dans un pays comme le Maroc. Prenons par exemple au Maroc, nous savons que nous avons des universités publiques, des universités privées.
Bien sûr.
De plus en plus maintenant d'universités privées, d'écoles privées aussi, surtout dans les domaines du management, de l'économie, etc., de la gestion. De plus en plus maintenant les étudiants font tout ce qu'ils peuvent pour passer les concours dans les écoles de management public, j'entends par exemple les écoles de gestion, l'IFKE, etc. C'est par défaut qu'ils vont se rabattre sur le privé en sachant que ces écoles cité, malheureusement, ce sont des écoles à effectifs réguliers, à numerus clausus, et dans ce cas, ils font l'accès à ces écoles-là ne se fait que par concours, et les places sont très très limitées, donc il y a une compétition accrue. Et pourtant, les frais scolarités sont, j'allais dire, absentes. C'est pour dire que la corrélation frais scolarité, diplôme n'est pas toujours réelle, en tout cas dans le cas du Maroc. Maintenant,
dans
d'autres pays, c'est autre chose. Hein.
D'accord. Alors maintenant, la question qui fâche, je suis désolé, Oudaïfa, c'est même une question qui peut même d'ailleurs être ressentie assez désagréable, mais ce n'est pas du tout le sens du propos, simplement c'est pour poser une question tout haut que beaucoup d'entre nous pensons tout bas. Est-ce qu'il faut rester au Maroc quand on fait ses études? Est-ce qu'il est obligatoire de partir à l'étranger, sachant que dans des pays européens, on se pose exactement la même question. Hein. Quand vous êtes en France, en Espagne, en Suisse, en Allemagne, etc., on se pose la question, est-ce que je dois rester en Europe? Est-ce qu'il faut partir sur les gros campus américains, sur les gros campus asiatiques? Vous voyez, on a toujours quelque part le mirage de l'étranger, c'est mieux plus loin. Est-ce qu'on peut ou pas raisonner comme ça? Est-ce qu'il faut nuancer ce type de raisonnement? Et si oui, en quel terme, Oudaïfa Mziane?
Alors, le choix, disons, d'étudier au Maroc ou à l'étranger, c'est un choix important. important,
mais
il dépend de plusieurs facteurs. Hein. Bon, maintenant, si vous m'aviez posé cette question il y a 20 ans, 30 ans, j'aurais dit automatiquement, évidemment, les études à l'étranger sont beaucoup mieux que faire ou suivre des études au Maroc, parce que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'universités, il n'y avait pas beaucoup de spécialisations,
oui, bien sûr,
d'écoles, d'instituts, etc. Maintenant, depuis un certain temps, une vingtaine d'années, disons, les études au Maroc sont beaucoup plus diversifiées, sont beaucoup plus spécialisées. On trouve un peu dans l'espace géographique une multitude d'écoles, que ce soit d'écoles d'ingénierie, de gestion, même des écoles d'infirmiers, des facultés de médecine privées. Donc, voilà, l'offre de formation, elle est très importante et diversifiée. Étudier au Maroc, présente un certain nombre d'avantages. Les frais de scolarité au Maroc peuvent être un peu plus abordables qu'à l'étranger.
Bien sûr.
Surtout si l'on considère les frais de la vie et les autres dépenses associées. L'étudier au Maroc aussi renvoie à la familiarité. Le Maroc offre un environnement plus familier sur le plan culturel,
social.
Les diplômes délivrés maintenant par l'université marocaine sont reconnus localement, mais aussi particulièrement avec l'Europe. Il y a une certaine mobilité qui est une reconnaissance de ces diplômes par des universités, notamment françaises, belges, etc. Et évidemment, mais si on a les moyens, une expérience à l'étranger ne serait pas refusée.
Bien sûr,
la bienvenue, parce que elle permet d'étudier à l'étranger, elle offre par exemple une expérience très enrichissante sur le plan personnel, académique. Elle permet aussi de découvrir une nouvelle culture, d'améliorer ses compétences linguistiques. Parce que forcément, si vous allez en Italie, vous n'allez pas étudier en arabe. Vous allez donc apprendre la langue. Vous allez aussi vous perfectionner dans d'autres langues, comme l'anglais, etc. Il y a aussi la qualité de l'enseignement. C'est vrai que les universités à l'étranger offrent des programmes académiques et des ressources peut-être plus spécialisées dans certains domaines.
Mais c'est vrai aussi que, vous l'évoquiez à l'instant, faut penser aux familles, aux revenus des familles. Demain, vous avez votre enfant qui vous dit « je veux aller étudier ». Alors, on peut prendre quasiment toutes les capitales européennes, hein, Berlin, Londres, Madrid, Rome, etc. C'est horriblement cher. C'est-à-dire que le prix d'une chambre d'étudiants, etc., les prix sont colossaux, sachant qu'en plus, il faut se nourrir, il faut s'habiller, il faut voyager. C'est vrai qu'on se rend compte que c'est incroyable. Les prix sont... sont vraiment...
C'est vrai, c'est un peu le revers de la médaille. Hein. Si on veut justement aller à l'étranger pour perfectionner les langues, s'ouvrir, avoir une qualité plus importante d'enseignement, le réseautage, etc., il faut mettre le prix et effectivement là où le bas blesse par rapport aux études à l'étranger c'est les frais de scolarité, pas que les frais de scolarité, même le coût de la vie comme vous venez de le dire. Dans certains pays c'est très très cher si vous partez en Suisse par exemple ou dans les pays scandinaves ou si vous allez vers les États-Unis, etc. Donc là ça coûtera plus cher. Il y a des dépenses supplémentaires qui vont être les frais de visa, l'assurance dans des pays par exemple. On exige qu'il faut à l'étudiant de payer une assurance. Donc voilà, tout dépend de la destination qu'on choisit. Si on va vers des pays, par exemple, proches, par exemple l'Espagne, la France, ce n'est pas comme si on allait vers l'Asie ou vers les États-Unis ou vers d'autres pays lointains.
Bien sûr, mais ce qui est quand même, pour revenir au tout début de notre entretien, ou Daïfa Amzian, c'est vrai qu'il est extrêmement difficile de ne pas se tromper. C'est compliqué, avec des enjeux financiers qui sont importants pour les familles. Donc maintenant, la deuxième question qui est aussi assez douloureuse, hein, il faut se la poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de s'endetter ? Est-ce que, alors sans tomber dans le travers américain, où vous avez des médecins qui payent toute leur vie les études qui ont été les leurs pour accéder aux fonctions médicales qui sont les leurs, est-ce qu'il faut aujourd'hui admettre de façon très sereine, très apaisée, oui, effectivement, il faut que j'aille emprunter pour avoir 50, 60 000, 70 000 dirhams que je vais ensuite envoyer à mes enfants qui vont aller étudier à l'étranger. Est-ce qu'il faut qu'on admette l'emprunt comme une normalité pour payer les études de nos enfants ?
Oui, à condition d'avoir fait le bon choix au départ, c'est-à-dire d'être orienté de manière intelligente. Ah. Il faut que l'étudiant, le nouveau bachelier, ne s'attarde pas à vouloir absolument aller à l'étranger pour s'inscrire dans une filière qu'il n'a pas auparavant bien réfléchi, mûri dans sa tête pour savoir ce qu'il veut, qu'est-ce qu'on veut. Donc l'orientation est très importante. Il faut faire, chacun doit faire, j'allais dire, le bilan de ses intérêts, de ses ouais. compétences, de ses valeurs. Parce que aller à l'étranger, il n'y a pas que le problème des études, mais est-ce qu'on va s'acclimater avec le mode de vie de ce pays? C'est une question cruciale. Il faut faire. Je crois que l'étape la plus importante au départ, c'est d'abord de savoir ce que l'on veut et d'être convaincu de ce que nous voulons faire comme spécialisation, comme discipline. Alors, une fois qu'on est convaincu, et on a vu, par exemple, on a consulté, on a fait une recherche, parce que il suffit pas de dire je veux faire telle ou telle filière, il faut aller dans le site de l'université destinataire, et puis regarder un peu les programmes d'études, pourquoi pas ne pas assister à des séances d'information qui se font à distance maintenant, et parler avec les étudiants qui ont fait telle ou telle discipline que vous voulez faire. Et donc tout cela fait partie de l'investigation préalable que doit faire tout jeune qui se respecte pour avoir par la suite prendre la décision adéquate, laquelle décision sera suivie par la suite convaincre les parents, voir si on a les moyens, faire un emprunt éventuellement, le cas échéant, pour que le retour sur investissement soit un retour positif. Hein, c'est surtout ça. Il faut un business plan pour finalement faire des études. Ouais. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la rigolade. Ouais, ouais. C'est très très important parce que les études, ça coûte cher, non seulement sur le plan formation, mais aussi les à côté, la vie, l'assurance, comme j'ai dit, le transport, etc., le logement. C'est pas sûr que l'on trouve un logement dans une cité universitaire.
Ah oui, donc, les places sont chères, absolument.
On se rabat peut-être sur le privé, c'est pas donné. Donc tous ces facteurs-là doivent être intégrés dans un modèle qu'on doit travailler. Et pour aller de l'avant de manière sûre et réussir son projet.
Mais Oudaïfa Hamziane, j'ai quand même le sentiment que vous êtes plutôt finalement assez favorable à l'idée, à l'hypothèse qu'il faille prendre un crédit, malgré tout.
Ah oui, c'est sûr. Maintenant, de plus en plus, maintenant, les étudiants, même les banques maintenant, les banques marocaines s'adaptent à cette nouvelle situation. Mmh. Nous, de notre temps, on n'avait pas d'écoute sur ce plan, sur le plan financier, sur le plan des banques. Ils n'étaient pas à l'écoute des étudiants. C'était essentiellement nos parents qui prenaient en charge nos études. Et puis, là, maintenant, le contexte a changé, le monde a évolué. Nous sommes dans un environnement mondialisé, il y a une compétition. Comme on vient de dire, il n'y a pas que l'école publique, mais il y a aussi l'université publique, mais il y a l'université privée. Ouais. De plus en plus de gens, d'élèves se rabattent sur le privé parce qu'ils ne trouvent pas de place, comme j'ai dit tout à l'heure, vu la sélectivité très importante que présente un certain nombre d'établissements relevant du public. Et puis, vu l'accroissement démographique, comme j'ai dit tout à l'heure, le nombre d'élèves, maintenant, les bacheliers de notre temps, c'était peut-être 10 000, 15 000. Là, ils sont des centaines de milliers.
Bien sûr.
Donc chacun devrait trouver la place qui lui revient. Et puis la compétition est accrue. Et finalement, si on veut se rabattre sur des études de qualité, il va falloir effectivement penser à faire un crédit qui est remboursable. Mmh. Mais simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, au préalable, il faut vraiment, l'orientation est très importante. Et c'est un facteur, malheureusement, c'est le maillon faible de toute la chaîne au Maroc. Je sais par exemple que dans les lycées, il y avait un nombre d'orientateurs très important dans les années 80-90 jusqu'à 2000, mais depuis de moins en moins de lycées disposent d'orientateurs et donc les jeunes sont laissés à leur...
Oui, ils sont un petit peu... En plus, avec Internet, il y a quand même une saturation d'informations, ce qu'on appelle aujourd'hui l'infobésité, le trop-plein d'informations, ce qui fait qu'à la fin, c'est difficile de s'y retrouver. Maintenant, c'est vrai, je voudrais juste quand même revenir sur un point qui est intéressant que vous évoquiez, Oudaïfa Hamziane, c'est quand même l'environnement universitaire s'est quand même considérablement amélioré ces dernières années au Maroc. Economia est une émission d'économie, comme son nom l'indique. Aujourd'hui, vous voulez faire des études dans ce secteur de l'économie aux États-Unis, au Maroc. Vous trouvez que l'offre marocaine est qualitative, elle est intéressante. Je sais que vous n'êtes pas loin, mais vous avez 20 ans. Admettons que vous ayez 20 ans aujourd'hui. Oudaï Fabian, vous feriez vos études d'économie au Maroc, vous resteriez au pays ?
Tout à fait. Je n'aurais pas changé d'orientation. J'aurais fait mes études... En tout cas, après le bac, j'aurais fait une licence au Maroc parce que maintenant, l'offre de formation au niveau des facultés, mais aussi des écoles...
Elle est très riche aujourd'hui.
Elle est très très riche, diversifiée et très spécialisée. Donc, nous avons de la banque assurance, il y a des études dans les sociétés de conseil, dans les études dans tout ce qui concerne l'administration, le management des organisations, le management des organisations internationales, les métiers de l'entreprise, le marketing, etc. Donc, tout cela se trouve au Maroc. Donc, simplement, il faut choisir l'établissement qui offre la meilleure qualité de l'enseignement. Et c'est là où donc il faudrait tout à fait se renseigner, discuter avec son entourage, avec des gens qui vous ont devancé dans ce domaine-là pour pouvoir le faire. Mais je crois que les filières économiques sont des formations très intéressantes, en tout cas au Maroc, et elles préparent à des métiers et de l'économie, de la finance, de la gestion. Et ce qui est important aussi, l'économie, c'est une discipline polyvalente.
Oui, bien sûr, qui est très très large.
L'insertion dans le marché de travail très facilement. Elle vous donne des bases qui permettent de s'orienter et de s'adapter à différents métiers de l'entreprise, de l'administration. Donc, je crois que c'est toujours très très réputé et très qui vaille le coup de suivre des carrières en économie et gestion de manière générale.
Dernière question, Odeifa, Amzian. On ne va pas se refaire le débat sur le statut des profs, etc. Peu importe, ça, on le laisse, c'était l'année écoulée. Mais est-ce que globalement, alors vraiment, rappelons aussi que vous avez été président d'un site universitaire au nord du Maroc, donc c'est un secteur que vous connaissez bien. Aujourd'hui, mais objectivement, il faut vraiment nous dire ce que vous avez sur le cœur, réellement, la qualité de l'enseignement, de l'économie dans le Royaume du Maroc. Vous en êtes satisfait ou pas, Oudaï Famzian?
Écoutez...
La vérité,
Oui, la vérité, l'enseignement de l'économie.
Oui, bien sûr, l'enseignement de l'économie, votre discipline.
Oui. Enfin, c'est pas le parfait. On peut mieux faire. Mais d'une région à une autre, effectivement, disons que à un certain moment, l'État a multiplié les établissements, les universités dans un certain nombre de régions qui n'avaient pas un peu des assises et qui permettent de développer de la recherche, d'accueillir les étudiants, d'avoir suffisamment de professeurs, parce que on crée des établissements, mais on fait pas suivre un peu le nombre de postes budgétaires. Et donc, ce qui fait que dans les anciennes facultés, dans les anciens établissements, dans les grandes villes, j'allais dire, la qualité de l'enseignement, elle n'est pas mauvaise. Hein. Elle est bonne et il est appelé à s'améliorer, évidemment, mais elle est, disons, de qualité. Parce que lorsque nous avons créé les écoles de commerce au départ, c'est-à-dire dans les années 90, début des années 90, on n'en a créé que trois. Ouais. Ils ont été accompagnés par la FNEG, la Fondation française de l'enseignement de la gestion, qui est une fondation qui regroupe l'ensemble des écoles des IAE de France, des écoles de commerce, etc. Et nous avons été accompagnés, les enseignants qui ont été recrutés ont bénéficier de stages, de formations pendant 3 ans. Donc, on a formé pour cela. Maintenant, après, il y a eu, chaque université a voulu créer son école de commerce, mais ça n'a pas été suivi par le même intérêt, le même accompagnement par ces institutions. Et donc, finalement, nous n'avons pas la même qualité de l'enseignement. Il faut le dire, si on nous classe dans ces écoles, les plus anciennes sont les plus réputées, j'allais dire, quand je dis plus anciennes, c'est le Stad, Agadir, Tanger, et puis Casablanca par la suite, Sinitra, c'est venu, et donc Oujda aussi. Mais simplement pour vous dire que c'est une question de moyens qu'on met pour recruter les meilleurs profils qui permet de voir ou d'impacter la qualité de l'enseignement.
Merci Oudéi Fabian, merci pour l'ensemble de ces explications et cette analyse qui, espérons-le, aidera nombre de jeunes et de familles à faire leurs choix cruciaux pour l'avenir. On reste au Maroc avec une séance plénière à Rabat, à l'occasion de laquelle Aziz Arnouch a dit vouloir un débat sérieux et responsable sur la réforme des retraites au Maroc. Le chef du gouvernement veut accélérer les pourparlers pour obtenir des solutions. Il veut s'appuyer sur le dialogue social marocain mis en place au cours de ces deux dernières années pour parvenir à un consensus entre les différents partenaires sociaux. Et le chef du gouvernement aussi fait référence à l'exécutif, aux syndicats professionnels qui ont déjà, d'après lui, examiné les principes fondamentaux de cette réforme. C'est un enjeu crucial pour l'économie marocaine. C'est ce qu'a expliqué à notre journaliste Mélanie Pinto Mohamed Jabri. Il est économiste et directeur de l'Observatoire du travail gouvernemental.
Aujourd'hui, si on aimerait bien avoir une réforme des caisses de retraite, il faut avoir de la confiance entre les partenaires. Il faut avoir aussi une volonté à travers les différents acteurs, à travers, bien évidemment, on devrait avoir une augmentation de l'âge, une augmentation des prélèvements. Mais en revanche et en parallèle, il faut injecter quelques milliards de dirhams au bout de 5 ou 10 ans. La question de la réforme du système de retraite au Maroc est devenue une question cruciale pour l'économie marocaine. Il faut rappeler un élément essentiel que les caisses de retraite jouent un rôle social parce qu'ils assurent une portion de retraite pour les retraités après une longue carrière professionnelle, mais aussi ils jouent un rôle important dans l'économie marocaine parce qu'ils donnent pas mal de financement pour des acteurs économiques au Maroc. Donc chaque jour qu'on perd pour une réforme des caisses de retraite, il fait perdre pour l'économie marocaine des millions de dirhams de manière quotidienne.
Merci Mohamed de Jabri. C'est sur ces mots que s'achève ce nouvel épisode de Economia. On aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.